Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Il n'y a pas d'effet sans cause. Notre propre existence est-elle l'effet du hasard? Nous existons, c'est une réalité. Pourquoi existons-nous? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Nous vivons sur la Terre où nous vivons notre vie matérielle et charnelle. Mais sommes-nous le résultat d'un processus évolutif, incontrôlé, aveugle, dépourvu de sens et sans la moindre intelligence? En cette fin du XXe siècle, la plupart des grandes écoles ont fini par accepter la théorie de l'évolution. Elles en sont même arrivées au point de rejeter le concept de la création, conçu et planifié par un Dieu tout-puissant, omniscient et d'une parfaite intelligence. Notre civilisation, avec ses gouvernements, ses religions, son enseignement, sa science et sa technologie, se dérobe lorsqu'il est question de Dieu. En général, l'humanité ne souhaite pas que Dieu se mêle de ses affaires. Le simple fait de mentionner Dieu indispose la plupart des gens. Une telle réaction ne s'explique que par l'influence de Satan que la Bible appelle le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde. Pourtant, Dieu est réel. Il a créé toutes choses. Par conséquent, la présence de l'homme sur la terre doit être liée au dessein du Créateur Tout-Puissant. Le dessein ultime de Dieu est de forger en l'homme un caractère saint, juste et parfait, à l'aide des qualités du fruit de l'Esprit. Cette perfection, l'homme l'atteindra au moment où Dieu le rendra immortel en faisant de lui un membre de la famille divine. Ce caractère, Dieu doit l'édifier en l'homme, mais encore faut-il que celui-ci se laisse modeler, façonner. Dieu réalisera ainsi sa création suprême qui consiste à se reproduire. Puisque ce qui est spirituel ne peut être détruit, Dieu savait qu'il lui faudrait utiliser de la matière pour se reproduire afin de pouvoir détruire celui qui s'opposerait à sa volonté. Il déclara « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, de l'air, et l'homme devint un être vivant. Dès qu'il se mit à respirer, l'homme, composé de la poussière de la terre, devint un être vivant, une âme vivante, une créature comme le sont les animaux. Remarquez bien que ce verset ne dit pas que l'homme a ou est une âme immortelle. Le mot « âme » est traduit de l'hébreu « nefesh » et s'applique seulement à un animal ou à un être vivant. L'âme est donc physique, elle se compose de matière et peut mourir. L'âme n'est qu'une créature vivante. Bibliquement parlant, tous les animaux sont des âmes, des nefesh. L'homme est une âme et l'animal l'est aussi. Cependant, il existe dans l'homme un élément supplémentaire, l'esprit humain qui lui permet d'élaborer des projets à long terme, de penser à ce qu'il fera plus tard, de prendre des décisions pour son avenir et celui des siens, d'avoir un comportement correct ou incorrect, etc. L'homme et l'animal ont un même souffle, la même source de vie. Ils meurent d'une même mort. La vie humaine est une existence animale. Toutefois, l'homme est fait à l'image et selon la ressemblance divine. Il possède un esprit humain qui le différencie des animaux. Paul écrit « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Dieu a voulu que l'homme lui ressemble physiquement, mais il souhaitait que cette ressemblance ne se limite pas à l'image seulement, mais qu'elle s'établisse surtout au niveau du caractère. Voilà pourquoi Dieu dota l'homme d'un esprit, d'une intelligence, qui permit au cerveau d'avoir des capacités intellectuelles, parfois exceptionnelles. Il lui communiqua la faculté de penser, de réfléchir, de raisonner. Grâce à cet esprit humain, Dieu a rendu possible les rapports entre l'homme et lui. Quelle est la valeur de la vie humaine? Quelle est la valeur de la vie du bébé qui est né au cours de cette nuit et qui a toute la vie devant lui? Quelle est la valeur de la vie d'une personne âgée de 80 ans qui voit le bout de sa route? Oui, Quelle est la valeur de la vie de l'homme? Pour certains, elle commence, pour d'autres, elle arrive à son terme. La science a établi que le cerveau de l'homme accomplit des fonctions étrangères au cerveau d'un animal, malgré l'absence de différence physique entre ces deux cerveaux. Soumis à son instinct, l'animal ne peut être comparé à l'homme. Il ne possède aucune connaissance et n'a que des besoins physiques. Dieu instruit l'homme dans un livre codé, la Bible. Son message ne peut être compris que si le Saint-Esprit est aussi présent dans l'esprit de l'homme. Sur ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, l'apôtre Paul écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'esprit humain, lors de la résurrection, transférera au nouveau corps toute la mémoire, la connaissance, le caractère, l'expérience qui auront été accumulées au cours de cette vie. Sans le fonctionnement du cerveau, l'esprit qui est dans l'homme est inconscient. Il ne peut ni voir, ni entendre, ni penser, ni savoir. La seule vie réelle, inhérente et éternelle, est celle qui émane du Saint-Esprit de Dieu, qui peut s'ajouter à l'esprit humain. La vie n'a de véritable valeur que si l'esprit de l'homme est uni à l'esprit de Dieu, celui-ci n'étant que l'esprit, la pensée et la vie éternelle de Dieu. Beaucoup de personnes s'imaginent avoir reçu l'esprit de Dieu, sans avoir jamais rempli les conditions adéquates pour l'obtenir. Elles ne sont donc pas engendrées de Dieu, elles n'ont jamais reçu cet acompte de vie éternelle, les arts de l'esprit, mentionné par Paul, qui écrit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Ce qui est le plus précieux chez l'être humain, c'est l'esprit qui lui permet de devenir un enfant engendré de Dieu et de naître un jour dans la famille divine. La valeur de l'homme est bien inférieure à celle que lui attribuent les sages de ce monde, mais son potentiel est de loin supérieur à celui qu'on lui prête, cela étant un fait évident dès que le Dieu vivant l'a engendré par son esprit qu'il n'accorde qu'à celui qui lui obéit. Mentalement et spirituellement, l'homme est incomplet. Il a été créé dans le but de recevoir un autre esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Grâce à son esprit, l'homme peut déterminer ce qui est bien de ce qui est mal, mais uniquement sur le plan humain. Il peut éprouver de l'amour et l'exprimer au niveau humain, cependant, sans le Saint-Esprit de Dieu, il est incapable de connaître le véritable amour qui vient de Dieu et qui est une des qualités du fruit de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne peut acquérir la connaissance de ce qui est spirituel et en comprendre le fondement. En se référant aux choses spirituelles, Paul affirme que Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Cette connaissance n'est pas révélée par une personne, mais par le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui la révèle par l'intermédiaire de son Esprit, qui est sa pensée, et n'est accordée qu'à ceux qui veulent vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut dire que le Saint-Esprit de Dieu, cette pensée qui vient directement de Dieu, est l'instrument, l'agent qui nous aide à comprendre ce que Dieu seul est à même de nous révéler. Si le Saint-Esprit de Dieu était une personne, s'il était la troisième personne d'une trinité, comme certains l'affirment, alors que ce mot « trinité » ne figure même pas dans la Bible, ne pensez-vous pas que l'on pourrait croire que l'Esprit de l'homme est lui également une autre personne ? C'est la logique même, n'est-ce pas ? Les animaux ne peuvent pas savoir ce que l'homme sait, et l'homme ne le pourrait pas davantage s'il n'existait pas cet esprit de l'homme qui lui apporte toute la connaissance sur son environnement. Mais malgré cet esprit humain, les connaissances de l'homme dans le domaine spirituel sont limitées. Pourquoi? Parce que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit entre dans l'homme, qui obéit à Dieu, qui observe ses lois et ses commandements, qu'il s'unit avec l'esprit humain et que la personne peut vraiment comprendre le domaine spirituel. Paul écrit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Souvent, les gens cultivés ont tendance à examiner les choses sous un angle évolutionniste, mais ils perdent de vue que l'évolution ne touche que la vie physique. L'évolution ne concerne pas la vie spirituelle, elle n'éclaire rien à son sujet, ignorant que les maux dont souffre le monde ont une cause spirituelle. Et bien évidemment, il n'y a aucune explication à leur sujet, ni aucune solution. Nous ne devons pas perdre de vue le dessein divin, le but merveilleux mis en route par la création de l'homme. Ce dessein suprême exige que l'homme rejette la voie de Satan et adopte la voie divine basée sur la loi spirituelle et éternelle de Dieu. Pour ce faire, l'homme devait être créé de matière physique, afin de faire le choix qui consiste à rejeter la voie égoïste de Satan et à suivre la voie divine. Sa caractéristique physique permettait également de le détruire s'il refusait de suivre la voie divine décrite dans la Bible. Dans ce cas, sa destruction mettrait ainsi un terme à sa vie de souffrance, de maladie, et il retournerait alors dans le néant, dans un état de non-existence. Quand des êtres spirituels, comme les anges par exemple, ont achevé de se former un caractère, et que celui-ci est arrivé à un stade définitif, il ne peut plus être changé. Il restera éternel et ne pourra plus être modifié. Par contre, ce qui est matière peut toujours changer, se modifier. Dans le plan magistral élaboré pour la réalisation de la création spirituelle de l'homme, la famille divine décida que la parole se dépouillerait totalement de sa gloire, de sa divinité, si cela s'avérait nécessaire pour devenir un être uniquement composé de chair, qui apporterait le salut, afin que la face spirituelle de la création de l'homme physique puisse s'accomplir. L'incroyable potentialité humaine réside dans le fait que Dieu se reproduit en l'homme. Il engendre actuellement tous ceux qui se soumettent à lui, pour qu'ils puissent naître dans sa famille lors de la première résurrection. L'Éternel Dieu expliqua à Adam et Ève l'importance de son gouvernement et de sa loi spirituelle. Ce n'est qu'après qu'il eut instruit le premier couple que l'Éternel permit à Satan d'avoir un contact avec nos premiers parents. La semaine prochaine, je poursuivrai ce sujet tel que la Bible le révèle, et vous pourrez ainsi comprendre pourquoi l'homme existe.